laisser la parole aux invités.
Comme d'habitude, une demi-heure ou un petit peu plus de présentation. On boit un coup, on en profite pour se chauffer, nous, et après on discute. Okay.
Et les Kurdes, quand on parle des Kurdes, et d'abord je voudrais remercier à Jean-François et Didier d'avoir nous invité de parler la question kurde avec vous. Et les Kurdes, il y a une revue récente qui s'appelle Moyen-Orient, un numéro consacré aux Kurdes, et le titre Kurdistan et des États, c'est-à-dire les Kurdes. C'est un peuple sans État, mais il y a plusieurs États qui impliquent dans la vie des Kurdes. C'est-à-dire un peuple, un pays partagé. Le Kurdistan se trouve au Moyen-Orient, qui fait un trait d'union entre l'Occident et l'Orient. Et la population kurde aujourd'hui dépasse largement 50 millions d'habitants. Et la superficie du Kurdistan, c'est à peu près 450 000 km², comme la France. Et la langue kurde, c'est une langue indo-européenne dans la branche iranienne. Et je passe d'abord des informations un peu claires. La région kurde, d'origine, les Kurdes sont des Zoroastriens. La culte feu. Mais par la suite, il y a eu une islamisation par la force. L'origine des Kurdes. Les Kurdes sont un peuple indo-européen qui sont arrivés dans des montagnes de Zagros entre l'Iran et l'Irak 2000 avant Jésus-Christ, qui ont fait un brassage avec la population autochtone qui a créé le peuple kurde. On voit l'apparition étatique la première fois avec l'avènement de l'Empire Mède. En 612 avant Jésus-Christ, l'histoire, à l'époque, il y avait un empereur assyrien qui s'appelait Déac, et qui c'était un grand tyran, et qu'il a eu une maladie. D'après cette maladie, et d'après la légende, il y a deux serpents qui sortent de deux épaules qui menacent manger le cerveau du roi. Et donc, la remède, c'est quoi? On cherche la remède. La remède est de nourrir les serpents avec le cerveau des jeunes gens. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend les jeunes kurdes et donne le cerveau aux serpents. D'après la légende toujours, il y a un forgeron qui s'appelle Kava, qui a 8 enfants. On prend 7 enfants et quand on demande le 8e, Kava, il se révolte et il rentre au palais, il tue le roi, il fait un grand feu. Et entre-temps, il y a un vizir qui organise tout ça. Et comme il est bienveillant, au lieu de tuer deux jeunes, il tue un jeune et il prend le cerveau d'un agneau mélangé et donné. Ainsi, au fur et à mesure, il y a eu 3000 jeunes dans les montagnes. Et Kava, quand il tue le Dehak, il fait un grand feu, et c'est-à-dire la liberté des Kurdes. Donc les jeunes descendent de montagne et on détruit l'empire et on crée l'empire Mède. Cet empire a vécu à peu près 70 ans, qui a été détruit par les Perses. Je passe rapide. Après, on voit l'arrivée de l'avènement de l'islam. L'islam est venu vraiment par la force au Kurdistan. Après la défaite des Perses contre les armées des Arabes, en 637, Khalid bin Velid, avec son armée, il arrive à Diyarbakir, la capitale du Kurdistan. Il y a un siège qui dure 3 ans. Après, les Kurdes perdent la guerre. Et c'est une islamisation par la force. Donc, les Kurdes sont devenus musulmans. Entre-temps, dans la région, il y a toujours des grands empires qui règnent, soit des Perses, soit des Byzances, des Roms. Et quand il y a des grands empires, il laisse les cultures locales de s'exprimer, de vivre. Et les Kurdes vivaient dans ces conditions. Mais au XIIe siècle, dans la région d'Yarbakir, les Kurdes forment un État, l'État Mervanide, qui a conquis pratiquement toute la superficie du Kurdistan. Et après, cet État, cette principauté est vaincue par les Seljuks turcs. Et au XIIe siècle, on voit la première fois le mot de Kurdistan. C'est-à-dire, quand il a le mot de Kurdistan, il n'a pas le mot de Turquie, il n'a pas le mot d'Irak, la Syrie ou même la France. Et pourquoi le Kurdistan? Parce que les Seljuks, ils distinguent les régions par rapport aux régions qui dominent. Et le pays où les Kurdes vivent, c'est le Kurdistan. Les Seljuks, ils nomment le Kurdistan. Mais la règne des Seljuks dure à peu près deux siècles. Après, on voit l'arrivée des Ottomans. Et le Kurdistan, comme j'avais dit, c'est un trait d'union entre l'Orient et l'Occident. Le Kurdistan se trouve entre deux empires, Perses et Ottomans. Et donc, les Perses et les Ottomans, bien sûr, ils s'affrontent. Et dans ces guerres, les Ottomans prennent une grande partie du Kurdistan. Le partage du Kurdistan, la première fois officiellement, c'est 1639 avec le traité de Castricine. C'est une ville qui se trouve au Kurdistan irakien. Mais à cette époque, comme l'empire perse était chiite et l'empire ottoman sunnite, la division était plutôt dans ce sens-là. La grande partie des Kurdes restait dans l'empire ottoman était des sunnites. Mais quand même, il restait des chiites à l'Aleut aussi, surtout dans la région de Dersim et Marrach. Et la nouveauté de l'Ottoman, c'était quoi? La nouveauté de l'Ottoman, c'était une reconnaissance d'autonomie très large. Et le Selim Ier qui a conquis le Kurdistan, il explique ici 15 fermans, c'est-à-dire 15 principautés reconnues par l'Empire ottoman. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la loi islam, et la souveraineté, comment on s'exprime? Battre une monnaie à son nom et faire la prière de vendredi au nom de souveraine. Dans les régions kurdes, la prière de vendredi est au nom de seigneurs kurdes et tous les seigneurs kurdes avaient une monnaie. Et simplement, les seigneurs kurdes devaient contribuer au sultan une somme de l'argent et pendant la guerre renvoyer des troupes pour soutenir l'armée ottomane. Et cette époque, c'était une période de paix au Kurdistan et c'est la raison pour laquelle on voit l'ouvrage de Amel Khani. Et en 1695, c'est le premier ouvrage dans le sens écrit kurde. Et, auparavant, il y a des écrits en kurde, Melek Cizri, Fakih Teheran, au 12e, 13e siècle. Mais vraiment, en forme, c'est ça. C'est-à-dire, c'est grâce à la paix relative dans le Kurdistan. Mais comme l'Empire ottoman c'était un empire féodal qui n'a pas su rattraper l'avènement du capitalisme et développer son économie, face à l'Europe, ils ont commencé à perdre leur hégémonie. Surtout dans les régions de l'Europe, il y a eu des mouvements nationalistes qui l'Empire ottoman perdait beaucoup de terres. Et en même temps, on voit au début du 19e siècle les premiers mouvements nationalistes kurdes. Et dans l'Empire ottoman, la première révolte kurde, c'est la révolte Baban en 1805, dans l'actuelle Kurdistan irakienne. Et la deuxième, c'était la révolte Bedirhan 1848, qui prenait une grande partie du Kurdistan turc et une partie du Kurdistan irakien, qui a duré pas mal de temps. Et même Bedirhan, il avait une vision nationaliste et moderne. Il renvoie des étudiants en Europe pour avoir des cadres d'un État. Même il crée une marine dans la lac de Van. Mais le malheur des Kurdes, c'était que le Kurdistan est au milieu de grands empires. Quand ces empires ont vu un danger vraiment qui menace leur hégémonie, ils se mettent ensemble pour battre les Kurdes. Qui se passait avant de passer à la révolte suivante, la famille Bedirhan joue un rôle important dans l'histoire du Kurdistan. Et je voudrais souligner cela. À la fin de 1600, je pense, la date exacte, j'ai oublié, le grand-père de Bedirhan, il renvoie un émissaire au roi de France, Louis XIV, le roi Soleil. Et on a trouvé son courrier dans les archives françaises, et ce qu'il disait, certes, le sultan ottoman, il est plus fort que moi, mais moi, je suis plus noble que lui. Donc, si vous voulez traiter les affaires d'Orient, c'est votre interlocuteur, c'est moi. C'est une prétention très forte, parce que les Turcs, comme souvent, ils sont venus d'Asie centrale, ils soulignent que les Turcs sont des pas autochtones, des pas des nobles. C'est lui qui est maître de la région. Et après cette information, à la fin du 19e siècle, il y a une grande révolte dans la région de Hakkari, qui fait aujourd'hui l'angle entre la Turquie, l'Irak et l'Iran, l'Irak, l'Iran, Turquie. Et cette révolte aussi allait réussir, mais toujours le sultan et le shah s'est réuni pour battre Bedirhan. Et au fur et à mesure, on arrive au 20e siècle. Le 20e siècle, c'est très important dans l'histoire du Kurdistan. En effet, il y a bien sûr la Première Guerre mondiale. Lors de la Première Guerre mondiale, et la France et l'Angleterre, et les impérialistes qui dominent le monde à l'époque, et ils mandatent deux diplomates qui s'appellent Sykes et Picot pour partager le Moyen-Orient. Donc, le partage du Kurdistan est décidé d'après les accords Sykes et Picot en 1916. Et 1918, l'Empire ottoman a perdu la guerre. Et on voit la résistance de Mustafa Kemal. Mais surtout, les Kurdes de la région de Kocgiri, c'est-à-dire dans la partie nord du Kurdistan, Turquie, des Kurdes à Lévis Zaza. En 1919, il révolte et Mustafa Kemal il renvoie un général Kuriel qui s'appelle Sakal Nurettin Paşa, qui a fait comment dire, une politique de terre brûlée. Il a fait tuer des milliers et des milliers de civils, des femmes, des enfants. Comme Mustafa Kemal, c'était un diplomate, un homme d'État, un général très rusé et habile, et il a trouvé des alliés chez les Kurdes, les seigneurs, les cheikhs et les Kurdes. Entre-temps, en 1920, il a eu un traité à Sèvres, dans les banlieues de Paris, qui avait prévu un État kurde. Dans une partie du Kurdistan, dans la partie de Mardin, Diyarbakir et Zakob Duhok. Mais ce traité n'est jamais appliqué et remplacé par le traité de Lausanne en 1923. Les alliés ont fait un accord avec Mustafa Kemal à Lausanne. Qui a officialisé le partage du Kurdistan en quatre. C'est-à-dire que le Kurdistan, une grande partie du Kurdistan, c'était pratiquement la moitié en Turquie, un quart en Iran, et un quart partagé entre l'Irak et la Syrie. L'Irak est sous le mandat de l'Angleterre, la Syrie sous mandat de la France. Les Kurdes n'ont pas accepté cette partage et il y a eu des révoltes dans toutes les parties du Kurdistan. Les plus importantes, c'est au Kurdistan irakien en 1925, la révolte Cheikh Mahmoud Berzanji qui n'a pas accepté la reine des Anglais. Et les Anglais ont deux fois il a révolté et les Anglais ont vaincu les forces de Berzanji par l'aviation. Et Cheikh Mahmoud Berzanji était exilé en Inde. En Iran, on voit la grande révolte Simcoe qui a duré jusqu'en 1930. On voit la première fois qui est devenue après une tradition des Perses iraniennes. Et on invite Simcoe à négocier avec les forces de Shah. Mais Simcoe, quand il va négocier, il y a un piège, il est arrêté, il est assassiné. Ainsi, on met fin à cette révolte. Dans le côté turc, on voit trois importantes révoltes. En 1925, la révolte Cheikh Saïd dans la région de Diyarbakir, Bingöl, Elazığ, qui a libéré 14 chefs-lieux kurdes pendant 3 mois. Et cette révolte, comme on s'est vaincu, à cause de la France. Et d'après le partage, le chemin de fer qui va d'Istanbul en Arabie Saoudite et à Bagdad, c'était sous contrôle des Français. Et Mustafa Kemal a négocié avec la France pour transférer ses soldats au Kurdistan, à Diyarbakir. Et sans l'accord de la France, il ne pouvait pas renvoyer ses troupes. Et les Kurdes avaient une liberté totale pratiquement. Et d'après cet accord, on passe les soldats turcs et Cheikh Saïd a perdu. Et après, il est pendu à Diyarbakir avec 41 personnes. Après cette révolte, on voit la grande révolte aux montagnes d'Ararat qui a duré de 1927 à 1930. Et c'est la vraie révolte kurde, je peux qualifier, parce que la révolte Cherset et les autres révoltes étaient un peu spontanées, pas préparées. Mais la révolte de Montagne d'Arlée était préparée par la première mouvement organisé nationaliste kurde qui est créé en 1927 au Liban. Et il y a un général kurde, Hasan Nuri Pasha, qui dirige la révolte. Et pendant 3 ans, il tient la tête contre les Turcs. Et comment il a perdu? Et d'après le partage entre l'Iran et la Turquie, et l'est de la montagne d'Ararat était en Iran. Donc, Hasan Nuri Pasha alimentait et la logistique par ce biais-là. Donc, quand il y a une logistique, il arrive à résister. Et Mustafa Kemal, il cherche une solution. Et pendant 3 ans, après, il fait un accord avec Shah d'Iran. Et qu'est-ce qui se passe? Et Mustafa Kemal, il donne une grande partie de plein de vannes en Iran. Par contre, il récupère la totalité de montagnes d'Ararat. Ainsi, il encercle la résistance kurde et la résistance kurde a perdu de cette façon. Et par la suite, on voit... la dernière grande révolte kurde, un peu spontanée, la révolte d'Ersin, en 1937 et 38. Et c'était pas une révolte organisée, et c'est la raison pour laquelle on a perdu. D'après les chiffres officiels de l'armée turque, ils ont assassiné 13 000 civils. D'après les recherches qu'on a faites, c'est 40 000. Et ils ont déporté 11 000 civils dans des villes turques à l'est. Et d'ailleurs, l'ex-président de Turquie, Süleyman Demirel, et quand il a eu la résistance de PKK dans les années 80, il disait que on a maté 28 révoltes kurdes. On s'est battu le 29e aussi.
Pardon. PKK, Parti Travailleur Kurdistan.
Je vais y arriver. Et après la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on voit une éphémère république kurde en Iran, la République de Mahabad. De 1940, début 47, fin 47, 11 mois. Et le premier parti moderne kurde qui est créé par Kazım Mohamed, qui était président de cette république, qui a été pendu par Shah en 47. C'était le parti démocratique kurdistan iranien. Et cette république, comment c'est, comment dire, c'est disparu. Et jusqu'à fin 47, il y avait l'armée soviétique dans la région. Et d'après les accords de Yalta, Staline a retiré ses forces et laissé le champ libre aux Anglais. Ainsi, et Shah, il a eu l'aval des Anglais et il a détruit la République de Mahabad. Et le père Barzani, Mollah Mustafa Barzani, était le chef de l'armée de la République de Mahabad. Quand Kazım Mohamed il s'est livré pour que les soldats chars ne fasse pas de carnage. Lui, il n'a pas accepté. Avec ses 800 combattants, il s'est retiré en Russie, en Union soviétique à l'époque. Et c'est en marchant, c'est-à-dire il a fait 1500 km à pied pour se rendre en Union soviétique. Lui, il est resté jusqu'en 1958 en Union soviétique, c'est-à-dire après 12 ans. Lorsqu'il a eu le coup d'état de général Kassem, ou révolte Kassem, en 58, il a eu une amnistie et un accord avec le communiste et Barzani, il a pu revenir au Kurdistan. Et ce retour était important pour les Kurdes. Et ainsi, Bagdad et Kurdistan irakien deviennent le centre des Kurdes. Mais la lune de miel ne dure pas très longtemps. Et en 1960, Kassem arrête les communistes et exclut les communistes. Et Barzani, il prend encore des armes. Il s'est réfugié dans les montagnes. Et tous les années 60 passent dans la révolte, parfois des très brèves périodes sans guerre. Et, tandis qu'au Kurdistan turc, on voit la première fois parler de la question kurde avec l'arrestation de 50 intellectuels kurdes en 59. Après le coup d'état de 60, on voit le procès de 49, c'est-à-dire parmi 50, un qui est mort, donc on fait un procès pour 49, c'est le procès de 49. Le projet de l'état turc à l'époque, c'était quoi? Si on élimine 1000 Kurdes, on décapite les Kurdes, et sans les Kurdes, on arrive à bien gérer les Kurdes. Et si on élimine 1000 Kurdes en un coup, c'est trop grand, et on n'arrive pas à expliquer au monde entier. Qu'est-ce qu'on fait? On élimine 50 par 50. Mais le coup d'État a stoppé ce processus. Et après, on voit la première revue kurde, non kurde, pas en langue kurde. En 1963, la revue Deng. Dans d'autres côtés du Kurdistan iranien, on ne voit pas des grands mouvements. Et au Kurdistan irakien, la lutte est arrivée sur un accord d'autonomie en 1960, 11 mars 70, entre Barzani et Saddam Hussein. Saddam Hussein, à l'époque, il était le vice-président de l'Irak. Mais ce qui est mal préparé, cet accord n'était pas multipartite, et c'était entre Barzani et Saddam Hussein. Même l'Assemblée de l'Irak n'a pas approuvé, confirmé, validé cet accord. Donc, cet accord est rompu sur le statut de Kirkuk. Et Barzani n'a pas accepté que Kirkuk soit hors du Kurdistan. Et Saddam Hussein ne voulait pas lâcher Kirkuk, parce que Kirkuk, c'est la région où il a le pétrole. Et Saddam Hussein, enfin, il cherche une solution. Et les Kurdes, Barzani surtout, soutenus par le Shah d'Iran, qui avait un problème avec l'Irak. Et Saddam Hussein et Shah d'Iran, ils font un accord à Alger en 1975 lors du sommet des pays musulmans. Et Saddam Hussein donne la partie sud de Chatul Arabe à l'Iran. Par contre, Shah, il arrête le soutien à Barzani. Et les forces kurdes sont rapidement défaites. Et il y a eu une démoralisation, des retraits en Iran et en partie en Turquie. Et après, il y a eu une division entre les Kurdes d'Irak, c'est-à-dire Jalal Talabani, qui était l'ancien président de l'Irak. Il se sépare de PDK d'Irak, le Parti démocratique Kurdistan d'Irak, il crée l'Union patriotique du Kurdistan en 1975. Entre-temps, dans la partie turque, il y a une évolution, une liberté relative. Depuis les années 65. Et en 65, un parti turc qui s'appelle le Parti des travailleurs de Turquie, et grâce à une motte sucrétienne proportionnelle, a eu 15 députés, dont un kurde. Et grâce à cette ouverture, les étudiants kurdes ont créé le foyer culturel de l'Est, parce que le mot kurde a été interdit. Et comme les Kurdes vivent dans l'Est de Turquie, on dit, pour désigner les Kurdes, les gens de l'Est. Il y a eu plusieurs meetings. Et après, et comme l'État turc a vu qu'il y a un danger, et comment faire, il y a eu la répression. Et la répression s'est accentuée après le coup d'État de 12 mars 1972. Au Kurdistan, tous les leaders kurdes et les élites kurdes étaient arrêtés, emprisonnés. Il y a eu des procès, et la première fois on parlait kurde, mais le Kurdistan est toujours interdit. Et c'était une époque où il y a une gauche forte en Turquie. Et on voit aussi l'avènement de la gauche kurde. On voit plusieurs mouvements qui arrivent. Des mouvements marxistes-léninistes, maoïstes, trotskistes. À partir des années 71, le PKK est créé en 78, 27 novembre 1978, dans un village de Diyarbakir. Je repasse au Kurdistan irakien, et que comme il a eu la défaite, et le père Barzani, il se retire de la politique, il s'est réfugié en Amérique, là où il est mort en 79 d'un cancer. Et ses fils, Idriss et Massoud Barzani, prennent le relais. Et en 1979, au 89, il y a des va-et-vient. Et les Kurdes d'Irak essayent de négocier avec Saddam Hussein, tantôt avec Shah d'Iran, mais c'est pas très clair, parce que la géographie kurdistan, comme le Kurdistan est encerclé par quatre États qui ont créé une unité d'action. Et l'exemple, c'était deux pactes. Le premier pacte qui a été créé en 1937, le pacte de Sadabat entre la Turquie, l'Irak, l'Iran, et seul le Pakistan était un peu hors de la région. Après en 1955, la Syrie aussi, le pacte de Bagdad, c'est-à-dire les pays qui partagent le Kurdistan ont créé des pactes pour mener des politiques contre les Kurdes, des politiques communes. Et pour ceux que les Kurdes en logistique en guerre, ils étaient mal. Et en 78, j'ai dit, il y a la création de PKK, il y a plusieurs mouvements kurdes. Et les Kurdes, la première fois dans le Kurdistan de Turquie, ils obtiennent la mairie de deux grandes villes, la ville d'Diyarbakir par Mehdizana. Le mari de Leyla Zana, que vous avez le livre, et la ville d'Arde, qui était gérée par les Kurdes. Mais l'État turc ne reste pas inactif. Et en 80, on voit le coup d'État. Et après le coup d'État de 80, c'était 12 septembre 1980, le Kurdistan est devenu une prison à ciel ouvert. Et plusieurs militants kurdes étaient assassinés, ceux qui n'étaient pas partis en Europe ou devenus des réfugiés. Et uniquement dans cette configuration, le PKK qui est organisé dans le Val de Beka pour former des combattants kurdes. Et à partir de 82, ils forment, et en 1984, le PKK lance la lutte armée en Turquie, le 15 août. Après, lors de la guerre d'Iran-Irak, on voit aux Kurdes iraniens et irakiens des malheurs très très graves. Et Saddam Hussein, surtout, il a organisé des opérations qui s'appellent l'opération d'Anfal. Raser 4000 villages à la frontière de Turquie, déporter 1 million de personnes dans des déserts. Les Kurdes ne savent pas vivre dans le désert parce que le Kurdistan, c'est une région montagneuse. Après faire à la fin de guerre, guerre Iran-Irak, il a gazé la ville Alepo en 1988. Et 5000 civils ont trouvé la mort. Mais à l'époque, l'opinion publique restait muette. Personne ne parle. Après l'intervention de Saddam Hussein au Kuwait, on commence à parler les crimes de Saddam Hussein. On se souvient des Kurdes. Et les Kurdes étaient gazés. En Turquie, la lutte armée dure. Et là où il n'y a pas la lutte armée, c'est la Syrie, depuis le début. Parce que la Syrie a servi au mouvement kurde une base arrière. Et toujours, dans les années 20, c'était les intellectuels kurdes qui s'est réfugiés à Cham, à Damas et à Alep. Notamment les plus vus, c'est les Bedir Khan, c'est Nuri Baytar, Nuri Destimi, Diyar Hun, et Ismet Şirvanlı qui était en Europe. Et dans les années 70, Talabani et Barzani, souvent, ils se trouvaient à Damas. Et à partir des années 80, Abdullah Öcalan et le PKK a trouvé les bases en Syrie. Et en passant, il ne faut pas oublier la situation en Iran. Et on se souvient que Shah il a été chassé par Khomeini en 79. Et le Mollah, quand il arrive au pouvoir, il a une période un peu passagère. Mais après, la répression prend très, très, très fort. Et pour montrer l'exemple, de 1953 en 79, c'est-à-dire la haute période de Shah, il a éliminé 5000 militants kurdes, physiquement. De 1980-83, en 3 ans, les Mollahs ont liquidé 50 000. En 3 ans. Et donc, c'est la terre brûlée. Et le Parti démocratique du Kurdistan iranien, Abdurrahman Kassimo, cherche des solutions. Et en 1989, il est contacté pour mener des pourparlers avec les Iraniens. Le lieu, c'est Vienne, la capitale d'Autriche. Et Gassumlo et ses deux adjoints ont été assassinés à Vienne en 89 lors de pourparlers avec les Iraniens. C'est lui qui a ordonné cette élimination, cet assassinat. C'était l'ancien président de l'Iran, Mahmoud Ahmadinejad. D'où j'avais parlé la tradition iranienne de lancer des pourparlers et éliminer les leaders kurdes, qui a continué en 1992. Encore trois dirigeants de PDKI étaient assassinés à Berlin lors du congrès international socialiste. En effet, là où il y a une lutte, c'est pour les Kurdes, c'est la Turquie, en partie l'Irak, dans les années 80 et 90. Et à partir de 92, pour les Kurdes d'Irak, il y a une facilité. C'est quoi la facilité? Après la bombardement de Saddam Hussein, les alliés, les Américains, les Anglais, la France, ont introduit une action, la non-ingérence. Et c'est-à-dire que là où il y a un danger pour un peuple, il faut intervenir, même si il y a un État souverain. Les Nations Unies étaient créées sur le principe de l'accord de Westphalie de 1848. C'était quoi? On n'intervient pas dans l'intérieur d'un État souverain. C'est l'affaire interne. Et la première fois qu'on viole cette règle, d'après l'exode des Kurdes d'Irak vers la Turquie et vers l'Iran en 92. On a créé une zone interdite pour Saddam Hussein au nord de parallèle 36. Et d'où les Kurdes ont commencé à faire des élections, élire un parlement, mais le problème entre Barzani et Talabani a paralysé l'évolution jusqu'à jusqu'au début des années 2000. Et au Kurdistan turc, la Turquie, malgré les efforts qu'ils ont déployés, parce que la Turquie, c'est un pays membre d'OTAN, c'est la deuxième armée de l'OTAN, un pays très fort, militairement, mais il n'arrive pas à mater la résistance kurde. Et qu'est-ce qu'on fait? On cherche la solution. La solution, d'abord, on essaye d'éliminer le leader kurde Ardoljan physiquement. Il y a plusieurs attentats qui n'ont pas réussi. Après, qu'est-ce qu'on fait? On fait la pression sur la Syrie pour chasser Ardoljan de la Syrie. Et en 98, fin 98, Ardoljan est chassé de la Syrie. Et il arrive en Europe, notamment à Rome, cherche l'asile, mais n'est pas accepté. Et par quelque part, enfin, il se trouve au Kenya, au capital à Nairobi. Et enlevé par les services turcs et israéliens et américains, c'est-à-dire trois services, Mossad, CIA, MIT, et collaborent pour enlever Öcalan du Kenya, ramené en Turquie, isolé sur une île, l'île Imirali. Depuis février 1999, c'est-à-dire depuis 16 ans, il vit seul sur cette île. Et désormais, les Kurdes de Syrie étaient un peu libres par rapport à avant. On voit les organisations des partis politiques kurdes syriennes Et le premier événement marquant, c'est l'événement de Kamışlı en 2003. Lors d'un match football, les Arabes attaquent aux Kurdes et 35 personnes étaient assassinées. Il y a une révolte partout de Kurdistan et syrienne, Rojava. Par la suite, le PYD, l'actuel parti qui est créé en 2004, Parti Union Démocratique. En 2003, les Américains sont intervenus en Irak et Saddam Hussein est arrêté après un jugement, c'est pas un jugement, une parodie, était exécuté. Et le Kurdistan irakien est devenu un État fédéral. Je passe rapidement parce que le temps, je parle beaucoup un peu. pour terminer, parce que le sujet est très vaste aussi. Au Kurdistan, l'événement marquant, c'est un peu ce qu'on parle le printemps d'Arabe. Après les événements de Tunisie et Égypte, en mars 2011, on voit les révoltes populaires en Syrie. Et dans le Kurdistan syrien, dit Rojava, et les Kurdes sont organisés. Et comme Assad, il voit qu'ils n'arrivent pas à combattre sur plusieurs fronts, pour concentrer ailleurs, il se retire ses forces du Kurdistan. Et donc, les Kurdes profitent de la situation et créent de facto une autonomie dans la région. C'est PYD qui organise cela. PYD et ses forces armées, c'est YPG et YPJ. Au Kurdistan irakien, on est arrivé pratiquement dans un état, quasi-état. Au Kurdistan iranien, il y a des révoltes, mais c'est très aléatoire. Ça dépend aussi de la position des Iraniens. En Turquie, depuis 2011, il y a un dialogue, on ne peut pas dire pour parler avec Öcalan, un dialogue avec Öcalan qui a créé une situation de cessez-le-feu de facto. Et quant à Kurdistan syrien, jusqu'à maintenant qui n'était rien passé, on voit l'avènement des cantons de Rojava à Cezire, c'était Kamışlı à l'est, au milieu de Kobané, à l'est, Afrin. Et donc les Kurdes créent trois régions autonomes et qui est basée sur l'autogestion, l'égalité homme-femme et une économie communale. Ce qui dérange un peu, ce modèle dérange les États de la région. Et comment stopper les Kurdes? Donc la solution vient de Daesh. Et Daesh, qui personne ne parlait jusqu'à 2014, dès qu'on voit Daesh prendre la ville Mossoul en quelques heures, la deuxième ville de l'Irak. L'importance de Mossoul, c'est quoi? C'est 500 millions de dollars dans la banque centrale de Mossoul et un quart de l'armée de l'Irak, c'est-à-dire en termes des armes lourdes. Et donc Daesh devient un acteur qui contrôle une grande partie de l'Irak et de la Syrie. Et Daesh, qu'est-ce qu'il fait? il attaque aux Kurdes, à Shengal, et surtout à Kobané, parce que Kobané c'est symbolique, Kobané c'est au milieu de deux cantons, et qui, si on prend Kobané, c'est-à-dire il n'a pas une continuité entre les territoires kurdes, on isole les Kurdes, après au fur et à mesure on élimine, mais ceux qui n'ont pas compté, la résistance kurde, les Kurdes ont résisté à tout prix, d'abord. Et tout le monde pensait que les Kurdes n'allaient pas résister parce que le Daesh, en quelques heures, ils prennent ce qu'ils veulent. Ils ont des armes lourdes, sophistiquées. Et les Kurdes ont des armes légères, mais il y a une résistance acharnée. Et même Obama, il disait que notre priorité, ce n'est pas Kobané. Le président turc Erdogan, il disait que Kobané va tomber. Mais les Kurdes arrivent à stopper, et quand ils stoppent, il y a une opinion publique en faveur des Kurdes, surtout. Et on voit le visage séculaire des Kurdes, les combattantes kurdes qui font une résistance acharnée contre les gangs de Daesh. Donc ils sont obligés d'aider aux Kurdes. Et un revirement au mois d'octobre. Donc, à partir d'octobre, la tendance a commencé à changer. Et les Kurdes ont commencé à encore récupérer les territoires de Kobané. En 26 janvier 2015, Kobané est libéré. La ville de Kobané est libérée. Aujourd'hui, Kobané est... Pratiquement tous les villages du Kobané ont été libérés. Et dans le côté Jezire, ils ont libéré des villages assyriens qui étaient sous contrôle de Daesh. Et bientôt, on va relier Jezire et Kobané. Et quant au Kurdistan turc, aujourd'hui, il y a des élections. Et il y a un parti pro-kurde qui s'appelle HDP et qui dérange beaucoup le pouvoir. Et pour comprendre, en Turquie, dans les élections, il y a 10% de barrage national. C'est-à-dire si un parti ne dépasse pas 10% des votants, il n'a aucun député. Et jusqu'à maintenant, les Kurdes n'ont pas passé cette seuil. Ils ont eu en 2002 6,2%. Après, pendant les élections, on présentait des candidats indépendants qui ont fait élire une fois 22 députés et en 2007. En 2011, 36 députés. Et lors des élections présidentielles de 2014, le candidat de HDP a obtenu 9,8%. C'est atteint des tâches. Et cette fois-ci, on a décidé de participer aux élections au nom de parti HDP. Et aujourd'hui, si HDP dépasse 10% de barre, et le parti de pouvoir AKP peut-être ne peut pas avoir la majorité. Et le projet d'Erdogan, de la Turquie, c'est un système parlementaire, pratiquement. Mais Erdogan, il veut trop de pouvoir, il veut un système présidentiel. Et pour avoir un système présidentiel, il veut avoir 400 députés pour faire une constitution selon ses voeux. Et si HDP dépasse 10%, il n'aura pas 400 députés, il ne peut pas être président comme il voulait. Pour cela, aujourd'hui, il y a une guerre très très dure contre HDP pour abattre HDP. Mais HDP, et surtout ici aussi, on est bien organisé. Par exemple, sur Toulouse, on a fait un recensement. On a 700 votants pour HDP. Nous avons organisé des départs avec des bus Et jusqu'à maintenant, on a ramené 650. C'est-à-dire 650 sont allés voter à Bordeaux. Parce que le vote à l'Europe, dans des consulats. Et à Toulouse, il n'a pas de conseil, il faut aller à Bordeaux.
Ici, Marseille.
Pour ça que les Turcs, surtout le pouvoir, est très dérangé. Et ils veulent à tout prix abattre les Kurdes. Et nous avons décidé de renvoyer des délégations pour surveiller les élections en Turquie, observer. Depuis Toulouse, on a organisé une délégation qui part le 5 juin en Turquie et revient le 9 juin pour observer les élections à Ardej et sur la frontière arménienne et iranienne. Et ce que j'ai appris aujourd'hui en venant ici, et on a fait une réservation de 5 juin à 9 juin. Ils ont 5 juin, c'est bon, mais de retour, ils ont mis 9 août. Vous voyez, exprès, parce qu'on achète les billets au Turkish Airlines. C'est une compagnie turque. Voilà. C'est-à-dire qu'il a une lutte très très dure à ce moment-là. Je termine mon intervention ici.
Merci. T'as sûrement pas soif, mais nous, oui. Ouais. On va aller boire un coup et après on pourra faire une question.